Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'est Roots dans le studio de Canal Sud. Alix, Anaïs et Quentin nous ont rejoints. C'est l'heure de la chronique Vera Cruz. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on fait un petit le printemps au jardin. Puisque c'est d'actualité même s'il pleut des cordes comme hier. Et on va surtout faire un petit focus sur les plantes médicinales. Puisque c'est toujours utile de savoir avec quoi on peut se soigner naturellement sans avaler plein de cachets des industries de pharmacie.
Et sans pesticides.
Et sans pesticides. On essaye, ça c'est plus compliqué d'avoir un jardin sans pesticides, même si nous on n'en met pas, il y en a toujours un peu, toujours des rejets dans l'air, on verra ça. Donc tout d'abord, bah, les plantes médicinales, depuis quand on les utilise ? Bah, en fait, depuis toujours. Puisque l'usage des plantes, en fait, pour se soigner, ça commence dès la préhistoire, où on a les premiers hommes qui avaient probablement vu les animaux se nourrir de certaines plantes quand ils se sentaient malades. Et on a pas mal d'études d'éthologistes, en fait, qui reconnaissent aujourd'hui donc, que les animaux ils vont de façon instinctive reconnaître en eux les symptômes d'un mauvais fonctionnement, bah, comme nous, parfois, quand on se sent grippé ou les angines, les choses qu'on arrive assez facilement à reconnaître nous-mêmes. Voilà, donc eux, de la même façon, vont reconnaître ces symptômes et donc prendre les mesures particulières pour que leur état s'améliore, donc consommer telle ou telle plante, parce qu'ils savent que du coup, ça va les soigner ou ça va les aider à pouvoir aller mieux. Donc on pense que les premiers hommes à la préhistoire avaient pu voir ce comportement et donc s'en étaient inspirés. Mais on a surtout en fait des traces de cet usage médicinal des plantes dès l'Antiquité dans tous les pays, mais on connaît que quelques exemples puisqu'il faut garder des traces écrites ou encore des traces qui peuvent être des fresques sur différents temples ou des choses comme ça, et c'est assez compliqué de retrouver ça dans les cultures. On a l'étude des civilisations, donc surtout Maya, Aztèque et Inca, qui eux gravaient beaucoup sur leurs temples et qui du coup nous permet de dire qu'ils avaient une connaissance des plantes médicinales et toxiques. Les Aztèques, paraît-il, savaient reconnaître et utiliser plus de 1200 plantes, ce qui est assez énorme. Et en fait, nous, on connaît de ces plantes-là que celles qui étaient encore en usage à la fin du XVIe siècle, là où on a commencé à avoir des écrits et commencé à avoir quelque chose de concret sur les différentes plantes. Il se transmet cet usage médical en fait par les plantes au cours des siècles, par en fait les anciens, les personnes âgées, et donc c'est souvent eux qui ont une grande connaissance de ces différentes plantes. Seulement, bah, on ne prend pas toujours le temps de leur demander, de savoir, vous utilisez ça, ah bah, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, puisque maintenant la pharmacie c'est vraiment entré dans les mœurs, on prend des cachets avec des excipients, des choses de synthèse, donc c'est assez rentré dans les mœurs, mais on revient quand même à cet état naturel avec tout ce qui concerne en ce moment, on a beaucoup le bio, tout ça qui revient, consommer propre, durable, et donc du coup ça passe aussi par la pharmacie et par les plantes et les médicaments qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, en fait, pour qualifier une plante de l'adjectif médical, il faut deux conditions. Déjà, il faut une inscription à la pharmacopée, et un but médical.
Qu'est-ce que c'est la pharmacopée, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Ça, c'est en fait l'institution qui répertorie tous les médicaments et tout ce qui peut être utilisé comme médicament. Donc, par exemple, que ce soit seul ou dans des mélanges. Donc, on a toujours le nom, l'usage, la posologie souvent. Voilà, donc c'est écrit... Voilà, c'est une institution qui fonctionne comme ça. Donc, en fait, certaines plantes, elles entrent en fait dans la composition de médicaments que sous forme d'excipient. Donc, l'excipient, je rappelle, en fait, c'est ce qui enrobe le principe actif et donc qui sert souvent soit à pouvoir faire passer le médicament jusqu'à l'estomac pour que ce soit ensuite libéré. Donc, l'excipient est dégradé et le principe actif est libéré. Et en fait, cette inscription à la pharmacopée, elle est nécessaire, mais en fait elle est insuffisante, puisque la deuxième condition, comme je le disais, c'est le but médicinal. On ne peut pas inscrire quelque chose à la pharmacopée si ça n'a aucun intérêt médicinal. Donc elles peuvent être donc considérées comme médicales si le but est médicinal, ou en fait, que ce soit plante ou organe de plante, elles peuvent être considérées aussi comme, bon, que ce soit aliments, aromates, épices. Et voilà, il y a vraiment un tri qui est fait, un classement qui est fait de ces différentes plantes.
Mais du coup, tu veux dire que par exemple la soupe d'ortie, c'est inscrit dans la pharmacopée ou c'est le principe actif des orties qui peuvent être utilisées?
Alors, la soupe d'ortie en elle-même, non, elle n'est pas inscrite à la pharmacopée, mais c'est vrai que l'ortie, on pourra en parler tout à l'heure après avec quelques exemples, a beaucoup de vertus et donc permet souvent de pouvoir soigner plusieurs pas maladies mais plusieurs maux, on va dire, puisque maladie c'est un bien grand mot, mais voilà, pouvoir soigner plusieurs maux, et c'est assez utile d'ailleurs, l'ortie. On le consomme pas trop, mais c'est vrai que c'est assez utile. Donc du coup, non, la soupe d'ortie n'est pas inscrite, mais ça pourrait, elle peut faire, en fait l'ortie peut faire partie d'un mélange de plantes qui du coup peut être utilisé comme médicament. Et donc après, en fait, cette inscription, mais il faut aussi faire la collecte. Ça, c'est un énorme travail, la collecte des plantes, parce qu'on en a qui sont encore totalement inconnues. Donc inconnues au sens large du grand public, je veux dire. Hein. Après, elles peuvent être connues par quelques personnes qui vivent dans les milieux où on trouve ces plantes. Mais si on ne va pas voir ces personnes, ben, on ne saura jamais que ces plantes sont utilisées. Il faut recenser toutes les informations sur les usages traditionnels pour connaître les conditions d'utilisation. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, ces connaissances, elles sont principalement détenues par des personnes âgées. Et donc, il faut s'appuyer sur cette connaissance empirique qu'ils ont des plantes et qui peut être une source inépuisable de principes actifs qu'on utilise encore dans les médicaments maintenant. Hein, quand on veut trouver des solutions à certaines maladies, on se tourne souvent vers la diversité qu'on a dans la nature, et souvent vers les plantes ou vers les animaux. Et c'est vrai que ça, il faut essayer de le conserver, puisque si une espèce disparaît, ben, on ne pourra jamais savoir, elle aurait peut-être pu guérir quelques maladies qui pourraient apparaître maintenant ou plus tard.
Mais alors, plus concrètement, est-ce que tu peux donner quelques exemples de plantes qu'on pourrait se servir, qui sont là, faciles, autour de nous, et qui peuvent nous aider, quoi?
Bah oui, alors complètement, donc on en a plusieurs. Déjà, il faut savoir que quand on veut utiliser des plantes, souvent on pourrait se dire, ah bah, je peux aller les récolter dans la nature, vers chez moi, mais en fait le problème qu'il y a, c'est que pour utiliser ces plantes, il faut qu'elles soient complètement pures, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pesticides, qu'elle soit dans un état assez naturel, pour pas qu'il y ait d'effets en fait qui pourraient être secondaires, on va dire, qui sont pas dus à la plante mais dus à ce qu'il pourrait y avoir dessus.
Typiquement un pipi de chien.
Voilà, exactement. Typiquement c'est ça, ou bah, vous avez une route pas loin, les gaz d'échappement, vous avez une usine pas loin, bah, les gaz des usines, ça peut être aussi ça. Donc voilà, c'est assez compliqué d'avoir un écrin de nature assez préservé pour pouvoir récolter les plantes. On a aussi souvent des plantes médicinales qui sont protégées et donc on ne peut pas cueillir. Donc ça aussi, faut le savoir. Souvent, maintenant, c'est en réserve naturelle qu'on les retrouve. Donc là, en réserve naturelle, c'est interdit de cueillir les plantes. Donc le mieux, si on veut se soigner par les plantes, c'est d'aller voir un herboriste. Comme il y en a encore quelques-uns en France.
Il y en a à Esquirol, je crois.
Exactement, il y en a à Toulouse, ici, au croisement entre la rue de Metz et la rue Alsace. Il y a un magasin de chaussures, et juste à côté, il y a un herboriste qui a ouvert. Donc je ne suis pas rentrée encore, mais qui a l'air assez fourni, et je suis sûre qu'il saura donner de bons conseils aux gens qui veulent se soigner un peu plus naturellement. Donc du coup, si on parle de quelques exemples, on a par exemple la badiane. La badiane, c'est l'anis étoilé. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Ses usages, il est souvent en fait utilisé comme antispasmodique, puisque en fait il va éviter et atténuer tout ce qui est spasmes intestinaux. Souvent, c'est très très bien pour les filles, pour les crampes utérines quand on a nos règles, c'est super, l'anis étoilé. Il va être aussi digestif, donc ça va aider à la digestion. Souvent aussi quand on consomme des coquillages ou des crustacés qui sont pas frais, ça pour les intoxications aux fruits de mer, c'est super aussi, l'anis étoilé. Voilà, puisque ça régule assez bien le transit intestinal. Et ça aussi, en fait, une fonction tonique. Donc, c'est-à-dire que ça va être, quand vous avez une petite fatigue passagère, un petit coup de mou, pas quelque chose de chronique, hein, mais voilà, vous êtes fatigué, par exemple, quand l'hiver commence, ou même à la sortie des fois de l'hiver, là, on est souvent un peu fatigué, ça, c'est un bon tonique à utiliser. Donc, après, on parlera de comment les utiliser et comment faire pour faire des décoctions ou... voilà, des cataplasmes avec certaines plantes. On va avoir aussi des choses qui sont assez connues, bah, par exemple le basilic, tout bête. Le basilic, lui, c'est un très bon antiseptique. Donc on l'utilise en huile essentielle pour désinfecter les plaies. Donc les huiles essentielles, c'est souvent très très facile de les trouver. C'est pas très cher et en fait, vous en avez pas mal dans un flacon pour une utilisation... C'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez commencer à utiliser les plantes médicinales. Il est aussi assez bien le basilic quand vous avez des migraines, voilà, puisque c'est bon pour tout ça, en application externe en fait sur les tempes. Vous massez un petit peu sur les tempes quelques gouttes de basilic, d'huile essentielle de basilic, et ça calme assez bien voilà, les maux de tête. Alors pas les grosses migraines. Parce que moi qui ai des bonnes migraines, ça ne soulage pas forcément. Si on s'y prend assez tôt, peut-être. Mais voilà, si vous avez des grosses migraines, ça c'est...
C'est un peu un appoint en fait. Quand on a vraiment une grosse crève malade pendant comme un chien pendant 3 jours, c'est pas ça qui va aider. Par contre, un petit truc passager, là c'est ça, elles servent à ça ces plantes.
Voilà, exactement. Alors c'est vrai que ça va souvent pas, ça peut pas soigner quelque chose de. Voilà, si vraiment vous attrapez un gros virus. Si on le prend à temps, je pense que dès les premiers symptômes, les premiers signes, si on le prend à temps, je pense que ça peut enrayer, mais si ça, c'est trop fort que on est en plein dans le, par exemple la grippe ou je ne sais quoi, là non, ça va pas pouvoir, à part si c'est viral, et ça encore faut-il le savoir, parce qu'on a beaucoup quand même de gens qui se traitent quand même aux antibiotiques alors que c'est viral et que c'est pas d'origine bactérienne.
Et les antibiotiques servent à rien.
Voilà, et donc les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, exactement. Hein. Mais non, là, ça sert à rien, puisque comme c'est d'origine virale, l'antibiotique va pas avoir d'effet dessus. Vraiment, ça va. Peut-être le reste qui va vous remettre d'aplomb, puis bon, quelque chose de viral, ça dure 3 jours, ben, vous restez au lit, et puis retour dans 3 jours. C'est vrai que c'est un peu embêtant des fois quand on est en période. Où on a beaucoup de travail, s'il y a des partiels, on est en plein dans la saison en ce moment, mais voilà, des choses comme ça. Là, il vaut peut-être mieux essayer de se soigner avec les plantes, en fait, du coup, et essayer de faire ça un peu plus sainement, on va dire.
Après, il faut le faire aussi assez régulièrement, parce que si vraiment tu veux soigner, du coup, en prenant juste une seule prise, ça sera pas forcément efficace.
Ouais, j'avais l'exemple avec ma copine avec qui on avait essayé des tisanes, des machins, etc. Et puis elle en reprenait une fois, puis elle disait « Ah bah ça marche pas ». Mais enfin voilà, c'est ce genre de produit où il faut l'utiliser 3-4 fois par jour, etc., régulier, ouais, pendant plusieurs jours, pour avoir effectivement un peu d'effet, quoi.
C'est comme le clou de girofle aussi, qui est un anesthésiant au niveau buccal. Moi, je sais qu'en ayant pris, j'ai eu vraiment une très bonne rage de dents, et au final, enfin, mâcher du clou de girofle, ça fait effet un temps, mais pas... Puis ça enraye pas non plus la douleur vraiment totalement, quoi.
Comme tous les médicaments.
Oui, aussi. Sauf quand on surdose.
Oui.
Donc voilà, c'est comme les médicaments qu'on prend, hein. Généralement, c'est 3 fois par jour, pendant 4 jours. Bah, pareil, voilà, pareil avec les plantes, il ne faut pas hésiter. Le clou de girofle, ça c'est assez connu. C'est vrai, quand on a mal aux dents, de mâcher du clou de girofle, c'est un truc d'ancien, mais
c'est un remède de grand-mère.
Voilà, mais ça marche assez bien, ouais. On a aussi, par exemple, quelque chose qui est normalement très connu des filles, c'est le bleuet, parce que le bleuet, c'est hyper bon pour les yeux. Quand vous avez une conjonctivite, irritation de l'œil, des orgelets, ça c'est souvent pendant l'hiver. Donc ça c'est très très bon pour les yeux, pour pas avoir les yeux fatigués, des choses comme ça. Et c'est vrai que généralement les filles connaissent bien l'eau de bleuet. Pour après le démaquillage, ça marche assez bien. Mais il marche aussi comme cicatrisant. On peut faire, en fait, appliquer une lotion sur les plaies ou sur des blessures, et ça arrête, en fait, les saignements, et ça améliore la cicatrisation. Voilà, le bleuet, c'est assez facile à trouver, en plus, c'est assez commun. Donc c'est des choses, les exemples que je donne, c'est, voilà, des choses généralement pas trop chères, et qui, du coup, même en herboristerie, vous allez pouvoir trouver ça séché sous forme d'huile essentielle assez facilement, puisque ça se cultive et ça se récolte assez facilement.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la menthe, par exemple?
Alors, la menthe, elle a aussi plusieurs vertus. Je sais qu'elle est très utilisée pour les toux, on les utilise aussi souvent, en fait, la menthe en association avec d'autres plantes. C'est souvent ça, en fait, hein. Après, ça dépend des menthes.
Oui, ça dépend quel type de menthe, parce qu'il y a la menthe poivrée qui est utilisée comme anesthésiant, en application directe sur la peau ou quoi. Là, on peut l'utiliser pour ça.
Pour anesthésiant, ça marche aussi là aussi pour les migraines, pareil comme le basilic. Anesthésiant et antiseptique pour tout ce qui est bactéries. Comme c'est assez fort, ce menthol, en fait, qu'il y a à l'intérieur de la menthe, ça va assez facilement anesthésier, comme disait Anaïs, les différents endroits du corps. Il y a aussi, on peut aussi la prendre en infusion si on a des maux d'estomac. C'est bon pour les crampes d'estomac, pour digérer. C'est vrai que ça, c'est assez bon aussi. Ça aide quand on a une digestion difficile. Donc après un repas de famille, une bonne infusion de menthe, et ça marche bien.
Tu parles de repas justement à l'instant, et il y a certaines de ces plantes qu'on peut utiliser comme plante médicinale, mais y compris dans les repas, dans les salades, les machins, pour justement accompagner un peu et aider, quoi. Dans la menthe, dans une salade, ça va très bien, avec des tomates, avec de la viande, voilà.
Ouais, complètement. C'est vrai que c'est très utilisé aussi en cuisine. On va avoir, par exemple, l'exemple de la bourrache. La bourrache qui fait normalement ces jolies petites fleurs bleu-violettes que tout le monde connaît un petit peu. Donc on en reparlera tout à l'heure en parlant de jardin, mais voilà, la bourrache, elle, on l'utilise dans les plats. On utilise la fleur dans les plats, puisqu'en fait c'est une fleur qui est comestible et qui a un petit goût, en fait, un petit goût d'huître, en fait. C'est assez bizarre, mais voilà, ça a un petit goût assez iodé, assez sympa. Enfin, il faut qu'elle soit à maturité, pas trop flétrie, mais si vous la prenez à maturité, ça a ce petit goût un peu iodé, et qui, elle, a beaucoup, beaucoup d'effets. Elle a des effets diurétiques pour filtrer la filtration des reins. Elle a des effets sédatifs, par exemple contre les troubles du sommeil, les angoisses. C'était assez utilisé, en fait, la bourrache, comme on la trouve assez facilement, c'était utilisé au Moyen-Âge comme antidépresseur. Donc arrêtez le Xanax et prenez de la bourrache.
Et tu parlais du printemps, là, tout à l'heure. Moi, au printemps, il y a un petit truc qui me gêne, c'est les allergies, les rhumes des foins. Est-ce qu'il y a des plantes pour aider à ça? Parce que je pense que c'est un truc qui peut être hyper utile à plein de gens.
Alors, les allergies, alors, j'ai cherché, parce que je me suis dit, vraiment, ça, c'est vrai que ça pourrait être assez sympa. J'ai pas trop trouvé de choses pour contre vraiment les allergies.
Parce que ça vient en fait, les allergies, moi j'ai un peu regardé, ça vient en fait du, contrairement à ce qu'on peut penser, de la digestion et du foie. Et donc en fait c'est plus sur le transit, les intestins, etc. Et c'est parce qu'il y a un problème de digestion que du coup t'as le reste qui déconne quoi. Et du coup c'est, il faut plus, contrairement à ce qu'on pense, faut pas forcément agir sur les sinus et tout, mais sur le foie.
Bah alors tout ce qui est digestif après, on a par exemple le houblon, qui est vachement bon pour la digestion.
La bière ?
Ouais. Alors, le houblon, il sert à aromatiser la bière. Hein. C'est vraiment... il faut bien choisir sa bière, alors. Mais ouais, le houblon, qui est pour la digestion, on a aussi de connu la mélisse. Donc, mélisse, menthe poivrée. Donc, ça, assez facile. On peut même utiliser ensemble la mélisse et la menthe. Tout ça, ça fait des bonnes infusions à utiliser. Il y a le millepertuis aussi. Millepertuis qui fait des petites fleurs blanches, qui lui aussi est bien utilisé pour la digestion. On a l'origan en cuisine, ça c'est facile à utiliser.
Herbe de Provence.
Voilà, bon, l'origan c'est assez sympa à utiliser. Le persil, on a le pissenlit aussi qui est bien pour la digestion. Donc ça en plus le pissenlit c'est super bon, vous mettez ça dans la salade, c'est assez sympa.
C'est un petit peu amer quand même, hein.
Ah, il faut mélanger. Ouais, faut mélanger.
Faut mélanger avec d'autres salades.
Ouais, faut mélanger. Mais après, bon, il y a des gens qui aiment bien. C'est comme la roquette, qui est assez amère. Donc ça, après, c'est chacun a ses goûts. On a le réfort aussi. Donc
qu'est-ce que c'est ça ?
Alors le réfort, en fait, c'est on utilise la racine dans le réfort. C'est quelque chose qui est assez fort, d'où son nom. Non, c'est quelque chose qui est assez fort. Et qu'on veut utiliser pour aromatiser les plats, mais généralement on l'utilise peu parce que c'est vraiment balèze quoi comme goût. Faut
aimer aussi.
Ouais, faut aimer. Hein, c'est assez fort. Après, c'est par contre à cultiver, ça pousse hyper bien. Ça fait comme on utilise en fait, on utilise la racine comme par exemple sur le salsifis. Donc et ça fait des grandes feuilles vertes. Après la plante en elle-même est assez basique, mais c'est vrai que ça pousse assez bien. Si jamais vous avez de la place pour le réfort, ça peut marcher. Il y a aussi tout ce qui est sauge, ça c'est bon pour la digestion. En plus la sauge, il y en a des tas et des tas. Vous avez la sauge normale, vous avez la sauge ananas, vous avez la sauge cassis, vous en avez une qui a goût à eucalyptus. Donc c'est assez... la sauge ananas étant ma préférée, ça sent, c'est très très bon, ça a vraiment goût à ananas. Alors c'est assez marrant parce que ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment ce goût très prononcé, ce goût d'ananas, et c'est vraiment cette odeur, c'est assez intense.
Tu parles d'ananas et il y a des trucs pour les nanas, transition subtile. non mais voilà, il y a des trucs, des plantes aussi qui peuvent servir, et mine de rien des choses dont on ne parle pas souvent mais qui peuvent être très désagréables. Je pense à des cystites, je pense à des problèmes de règles douloureuses, etc. Alors j'ai entendu parler du cranberry qui peut être utilisé. Bon, ça pousse pas trop chez nous mais ça se trouve. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui peuvent aider pour ces petits problèmes là féminin, même si c'est
alors,
pas connu.
Il y a qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour les problèmes. Comment
que t'avais dit, le
bleuet. Il y avait le bleuet.
Voilà, le bleuet. J'ai dit ça. Il y avait aussi, il y a aussi le persil. C'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est pour tout ce qui est cystite, comme c'est des infections, c'est assez compliqué parce que les infections, pour les faire passer, en fait, ce qu'on dit quand on a une cystite, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, éventuellement, avoir des plantes qui vont être diurétiques et qui vont agir sur les reins. Donc, ça, c'est pas mal. Et des diurétiques, il y en a un paquet hein, à utiliser, les queues de cerises, par exemple. Alors, ça, en plus, on va être dans la saison des cerises. Vous gardez les queues de cerises. Il suffit de vous faire infuser dans l'eau chaude comme du thé. Et alors, il n'y a rien de mieux pour ouais, tout ce qui est du
radical.
Ouais, c'est radical. Ouais, non, mais vraiment, vraiment radical. On trouve aussi pas mal, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est assez diurétique. Donc ça aussi assez naturel, mais ça par contre ouais, ça marche assez fort quoi.
Ça d'accord.
Voilà, ça marche assez fort, il vaut mieux pas sortir de la journée quoi. Enfin, moi je préfère vous mettre en garde. Ouais. L'île de Russin, ça c'est
testé, approuvé par Veracruz.
Ça c'est fort, il y a la myrtille aussi. Ça c'est pas mal. Assez diurétique, tout ce qui va être on a quoi? On a l'oignon aussi, c'est diurétique. Ouais. Il va y avoir l'ortie qui est diurétique aussi, il y a pas mal de choses, hein, la pensée, le pissenlit, le plantain c'est diurétique, la prêle aussi, la réglisse, la reine des prés, souvent on fait un mélange reine des prés que de cerise. Ça, si vous regardez les infusions draineurs et élimination dans les rayons des supermarchés, souvent c'est reine des prés et que de cerise et mélisse. Donc vraiment, ça c'est un trio gagnant.
C'est vrai que c'est très efficace. C'est plus efficace que de boire 3 litres d'eau dans la journée. Vraiment, on prend quelques infusions dans la journée et c'est radical, ça passe.
Ouais. C'est approuvé, pareil.
Approuvé. Non, vraiment, ouais, ça c'est des choses assez, assez faciles en fait, à trouver. Et puis voilà, le thé, l'infusion, généralement ça passe bien. Ça permet de boire sans forcément se forcer à boire de l'eau. Parce que c'est assez dur. Il y a des gens qui ont assez de mal à boire de l'eau dans la journée, alors qu'il faudrait boire au moins 1,5 litre, voire 2. Donc ça, c'est surtout en été, puisque on transpire, donc forcément, il faut se réhydrater dans un sens. Donc soit on prend ça par l'alimentation, enfin, si vous mangez des trucs bourrés de flotte, type melon, concombre, tomate, là aussi, y a de l'eau à l'intérieur, donc forcément, vous avez besoin de moins boire. Mais les gens qui boivent peu, les infusions, ça peut être au cours de la journée, quelque chose qui va les aider à boire un peu plus. On peut même le faire froid. Voilà, dans une bouteille, froid, ça passe mieux que de l'eau toute seule.
Très bien.
Voilà.
On marque une petite pause. Et tu nous parlais juste à l'instant des plantes médicinales. Il y a d'autres types de plantes qui ont des effets médicinaux ou pas. Bien sûr, à proscrire absolument par tout le monde, en toutes circonstances, en toutes situations. Cana, ma plantation.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes. Légumes tout ne pas pousser. Moi j'ai planté agrumes. Agrumes tout ne pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé. Toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas. La nana ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades. Grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Thank you.
Cana, ma plantation, ah les années 2000, et oui ça paraît loin maintenant, ça fait déjà plus de 10 ans. On continue sur Canal Sud avec la chronique de Veracruz consacrée aujourd'hui aux plantes et à leurs vertus médicinales. Et c'est Alix qui reprend en nous parlant justement de comment on utilise ces plantes, l'histoire des principes actifs, c'est ça?
Exactement, voilà, donc on va voir un petit peu les différents principes actifs qu'on a dans les plantes. Donc en fait on en a 8, oui, ça que je dise pas de bêtises. Certains plus connus que d'autres. Donc le premier par exemple c'est ce qu'on appelle le mucilage. Le mucilage par exemple c'est dans l'hibiscus. Donc en fait les mucilages dans les plantes médicinales, ça a une structure chimique qui est variée, mais qui contient toujours en fait des molécules de glucose et qui se combinent avec d'autres substances. Et en fait, ils sont tous en mesure d'absorber des grandes quantités d'eau et ça fait gonfler ces molécules. Et ces plantes médicinales, elles sont utilisées contre tout ce qui est constipation. On les utilise aussi quand on a la gorge ou la bouche assez enflammée, voilà, au niveau des muqueuses de la bouche. On a aussi comme principe actif les tanins. Donc ça, les tanins, c'est plus connu déjà. Donc par exemple, la potentille, en fait, son nom de tanin, ça provient du fait qu'elles entrent en combinaison avec les protéines animales quand on fait le tannage du cuir. Donc ça, c'est sur les peaux. Quand on tanne la peau, on obtient ensuite le cuir. Et ils réagissent au contact de la peau et des muqueuses et ils sont astringents et principalement utilisés dans le traitement des blessures internes ou externes.
Astringent ?
Astringent, ça veut dire que ça va être... ça va vraiment... Comment expliquer astringent
Que c'est un terme qu'on utilise de temps en temps en médecine, mais effectivement, c'est pas trop ce que ça veut dire en fait.
Bah c'est astringent, ça veut dire que ça va, enfin vraiment ça va agir, voilà, vraiment sur la blessure, quoi. C'est dur. Ouais.
Ça va aider. Ça resserre les tissus. En
fait. D'accord. Ouais, voilà, ça aide à se refermer.
À agir sur le.
D'accord.
Voilà, sur la blessure et sur que ce soit interne du coup ou externe.
Ok. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Pas de soucis, pas de soucis, pas de problème. Donc le troisième, c'est ce qu'on appelle les amers. Donc les amers, par exemple, c'est dans le houblon. Donc ils ne sont pas chimiquement uniformes, mais ils ont tous plus ou moins ce goût amer. Et en fait, du coup, c'est les glandes digestives de la bouche, de l'estomac et de la vésicule biliaire qui réagissent en fait... cette amère qui est par une sécrétion du coup accrue des sucs digestifs, et ils favorisent donc la digestion, ils stimulent l'appétit et ils peuvent aussi bloquer des bactéries de fermentation à l'intérieur de l'estomac. On a ensuite les saponines donc par exemple la saponaire tout simplement. Donc en fait les saponines, elles se composent de glucides et de molécules aromatiques qui font mousser l'eau. Donc en fait elles sont, en fait le rhizome de la saponaire, ça a longtemps servi de lessive avant qu'on utilise qu'on trouve des procédés de synthèse.
Pareil, le rhizome.
Alors le rhizome, ouais.
Pour les non chimistes.
Donc le rhizome, ça va être la partie souterraine en fait de la plante. Donc par exemple, si vous avez, on va prendre un exemple connu, le bambou. Le bambou, il fait des rhizomes pour se multiplier, c'est-à-dire que sa racine va pousser, faire quelque chose d'horizontal dans le sol et faire un autre bambou à côté. Donc c'est du clonage et ce qui fait cette petite partie, c'est le rhizome en fait. Voilà, cette petite racine, c'est le rhizome tout simplement. Et donc du coup, donc ça qui est utilisé pour faire de la lessive, puisque ça mousse avec l'eau. En fait, les saponines, elles, par contre, elles sont toxiques quand on les utilise à forte concentration, car elles attaquent en fait la membrane des cellules, la fine membrane qu'il y a au-dessus des cellules. Et voilà, donc elles, on peut les prendre pour favoriser l'expectoration. Donc ça, c'est quand vous avez des toux. Et que c'est assez... les toux grasses et pas les toux sèches, pour faire sortir tout ce qui est mucus à l'intérieur des bronches, quoi. Donc ça, c'est... ou alors pour les reins, si on veut enlever toutes les toxines, les choses comme ça c'est pas mal aussi pour les reins. Alors ça, c'est normalement plus connu, c'est les flavonoïdes. Les flavonoïdes, donc en fait, c'est des combinaisons aromatiques liées à des molécules de glucose. Et donc, seuls certains flavonoïdes sont jaunes, parce que le flavus, en latin, ça veut dire jaune. Et en fait, en fonction de la composition, c'est des rôles qui sont médicaux qui vont être différents. Ça peut aller d'un rôle diurétique à un rôle vasoconstricteur, donc ça pour resserrer les vaisseaux sanguins.
Et concrètement, des plantes flavonoïdes qu'on connaît ?
Il y en a pas mal, mais c'est pas hyper connu, les flavonoïdes. D'accord. Enfin, il n'y a pas de plantes super connues sur les flavonoïdes. C'est plus, après, c'est plus l'autre famille, par exemple les alcaloïdes. Là, c'est une famille qui est plus connue. Vous avez la belladone, par exemple, qui fait partie des alcaloïdes. Donc, c'est des molécules azotées de différentes compositions aussi. Il y en a plus de 7000 des alcaloïdes. On a les substances végétales qui sont assez toxiques dans cette famille-là. La nicotine, la morphine, l'atropine, la belladone, comme je citais tout à l'heure. L'agonite aussi, voilà. Et c'est en fait seul un médecin qui peut vous prescrire, vous administrer ces alcaloïdes comme principe actif. Vous n'allez pas pouvoir trouver ça en libre service, voilà, comme je le disais, hein, la nicotine, tout ce qui est morphine. Par contre, vous voyez, particulièrement toxique, j'ai cité la nicotine, et ça, vous n'avez pas besoin du médecin pour aller l'acheter normalement. Donc,
malheureusement,
c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, des principes comme ça qui sont détournés de l'usage en fait qu'on pourrait en faire à la base, puisque c'est quelque chose, par exemple comme la morphine, voilà, ces alcaloïdes qui vont permettre de détendre et d'endormir quoi, vraiment les gens. On a d'autres formes d'alcaloïdes avec un nom un petit peu particulier, pyrolizidinique. Voilà, alcaloïde pyrolizidinique. Donc c'est une forme spéciale qu'on trouve dans plusieurs espèces de plantes. Et en fait, il faisait partie de remèdes, jusqu'à de certains remèdes qu'on utilisait, en fait, jusqu'à ce qu'une expérience y mette en évidence la toxicité pour le foie et les propriétés cancérigènes. Donc on a assez vite arrêté cette partie des alcaloïdes à cause de leur toxicité. Et la dernière, en fait, c'est les glucosides cardiotoniques, donc par exemple la digitale. Voilà, la plante, la digitale, qui est assez connue aussi.
Qui n'est pas mortelle ?
Alors, ça dépend toxique. Des doses. Ça dépend toujours des doses, en fait. Une plante, elle peut être toxique alors à faible dose ou si on en consomme beaucoup. Et la digitale, ça dépend des doses. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'on peut s'en servir. Voilà, c'est...
Faut faire attention aux doses. Enfin, comme tous les médicaments, c'est faut pas trop en prendre. Et prendre la juste dose. Et...
Le chocolat, c'est toxique à haute dose ou...
Oui.
Alors, ça dépend.
Oui, ça peut être toxique.
Ça dépend. Bah après, le chocolat, c'est très fort en magnésium. Donc voilà, consommer du chocolat noir, c'est vachement bon quand vous avez un petit coup de mou, on va dire. Bon, prenez pas la tablette, hein, mais...
Ouais, non, parce que surconsommer, ça finit par faire mal au ventre, quand même.
Voilà. Bonne prise de
foie. Et ça finit sur les hanches, après, donc...
C'est peut-être pour ça qu'on s'en prend un bout de chocolat quand on est un peu pas le moral, machin. Hop, ouais. Deux petits carrés.
Non, mais un carré par jour, c'est bon.
Ouais, non, ça va très bien. C'est plein de magnésium.
Comme le vin.
Pas pour
bon,
le magnésium.
Mais après, non. C'est pour un petit
la dose. Nicotine, du vin, du chocolat, on apprend des belles dans cette émission.
Non, mais c'est vrai que voilà, il y a des fois des choses où il ne faut pas hésiter, il faut faire attention quand même, voilà. Donc comme on le disait aux doses. Et donc la digitale, comme on parlait, donc en fait, c'est à l'intérieur, on a les glucosides qui sont tous basés sur une structure, c'est un peu compliqué chimiquement, mais sur une structure de stéroïdes. Et on les utilise pour stimuler le muscle cardiaque, et eux, ils sont prescrits par le médecin en cas de faiblesse du cœur due à la vieillesse ou pathologique. Voilà, donc ça, c'est assez utilisé aussi. On va aussi parler vite fait de la récolte de ces plantes.
Bah oui, parce que vous m'avez cherché.
Voilà, donc si on peut par exemple, si vous avez un jardin et que vous cultivez des petites plantes médicinales et que c'est un endroit qui est assez protégé, c'est-à-dire loin de routes, loin de toute forme industrielle, on va essayer d'avoir le moins de problèmes possibles à la récolte.
En pleine campagne.
Voilà, il faut être en pleine campagne, assez perdu.
Mais pas au milieu du Lauragais parce qu'il n'y a pas de pesticides.
Donc en fait, c'était il y a quelques dizaines d'années, cueillir en forêt, en pleine nature, ça ne posait pas vraiment de problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a seule une minorité de personnes qui vivent au contact d'une nature qu'on peut appeler intacte, et là où on peut prélever des herbes sans souci, puisqu'on a, comme on le disait, les fumées provenant de l'industrie, des automobiles, les substances nocives qui se déposent donc sur ces plantes et empêchent d'utiliser ces herbes sauvages. On peut donc, comme on le disait aussi, avoir des herbes qui sont protégées et une cueillette interdite et qui ne poussent plus du coup que dans des réserves naturelles. Les herbes qu'on va cueillir par exemple en nature ou que vous allez pouvoir cueillir chez vous dans votre jardin, elles doivent être séchées jusqu'à ce que le taux d'humidité il soit très bas en fait, puisque sinon vous avez des risques de contamination de champignons. Donc si vous voulez les utiliser, c'est mieux d'avoir quelque chose d'assez propre.
Et justement, comment on fait sécher sans que ça pourrisse? Parce que ça arrive parfois.
Alors, on fait sécher, normalement, tout le monde a déjà fait un herbier, étant petit. Donc, à faire sécher entre... Ah, peut-être pas.
Loin. Avant Cana.
Avant les années 2000, d'accord. Non, mais voilà, donc ça, un herbier entre... Alors, le journal, c'est pas génial parce que c'est plein d'encre et du coup, de mercure et tout. Donc, il faut essayer de trouver soit des journaux... Alors, des journaux qui sont un peu vieux. Parce que du coup, c'est...
Ou des journaux sans texte.
Des journaux sans texte. Non, mais ça, c'est assez compliqué aussi. Donc, pas de feuilles de tout ce qui est magazine plastifié, des choses comme ça. Ça, c'est une horreur. Mais voilà, les journaux, en fait, le papier va absorber l'humidité de la plante et du coup, pouvoir du coup la sécher. On peut aussi faire ça. Bon, ça, il faudrait avoir du papier spécial, sans écriture, tout ça. On peut le faire au-dessus d'un feu. Donc, par exemple, vous avez un feu, comme un barbecue ou quelque chose comme ça. Vous mettez la grille très, très haut. Et en fait, vous faites, il ne faut pas qu'il y ait de flamme, il faut qu'il y ait de la fumée. Et en fait, vous faites fumer l'herbe. Et du coup, ça va la sécher. Donc ça, c'est aussi... Il ne faut pas que ça crame, mais il faut que la fumée aille sur... la plante qui est enveloppée dans son petit papier journal ou papier exprès pour les faire sécher. Et là, voilà, la fumée en fait va sécher toute seule.
Il faut un certain bois aussi, une certaine essence. Oui.
Alors après, il y a des bois qui fument plus que d'autres. Et donc ça.
Oui. Faut pas faire un feu avec du plastique.
Non.
deux trois idées de bois qu'on pourrait utiliser. Châtaignier, hêtre...
Le hêtre est souvent utilisé pour fumer les saumons.
Ouais.
Ouais.
Donc ça, c'est assez, ça a quelque chose qui va assez bien fumer. On utilise cette technique aussi, par exemple, pendant les récoltes des insectes. Quand, par exemple, vous avez des chercheurs qui font des études sur des insectes qui sont en pleine nature, en pleine jungle, et qu'il faut pouvoir sécher les insectes pour pas que ça pourrisse et pour qu'on puisse les identifier après. Bah, c'est pareil, un grand feu, une plaque en haut, il y a de la fumée, il y a un préposé à faire de la fumée et il faut que ça sèche, quoi. Parce que si jamais la fumée s'arrête, ça tout peut pourrir. Et donc là, on gaspille toute une partie du travail. Donc voilà. Donc pour sécher, c'est souvent comme ça qu'on le fait. Après, il faut que ce soit conservé dans des récipients en verre, en céramique ou en métal. Le verre, de préférence, il faut qu'il soit foncé pour éviter la lumière, des choses comme ça. Donc si vous avez un verre foncé, c'est vrai que c'est plus compliqué à trouver maintenant, mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir.
Sinon, on fonde un placard et après la lumière, quoi.
Voilà, donc après, ça peut être dans de la céramique ou du métal, pas de plastique.
Et les vieilles boîtes type Ricoré, machin, ça peut être ce qui se fait d'habitude. On récupère ces vieilles boîtes qui sont en fer à l'intérieur et avec un plastique un peu, on va dire, au-dessus.
Ça peut le faire, ouais. Il faut du métal. Le métal, c'est mieux. Si vous avez tout ce qui est vieilles boîtes à chocolat, gâteaux, les choses comme ça, souvent, y a les boîtes sont souvent très jolies en plus. Et ça, les vieilles boîtes en fer, c'est la saison des vide-greniers, là. Vous faites les vide-greniers, vous allez en trouver des 1000 et des 100. Donc ça, c'est pas mal aussi pour conserver. Voilà, donc après, si on ne cueille pas et qu'on ne veut pas avoir de problème pour tout ce qui est conservation et tout, comme on le disait tout à l'heure, on peut trouver ces herbes médicinales en pharmacie ou en herboristerie. Et souvent, voilà, c'est des plantes qui proviennent de cultures ou de récoltes qui sont contrôlées. Et c'est soumise à un contrôle de, elles sont soumises à un contrôle de qualité. Donc, c'est quand même un gage assez, assez important de qualité. Donc, ça, c'est pas mal. Pour ce qui est des parties qu'on utilise, on a tout ce qui est donc racines, rhizomes, tubercules et bulbes. Donc ça, c'est préférentiellement à l'automne, au moment où la plante elle a flétri et qu'elle se prépare pour passer l'hiver. Ou alors au début du printemps, lorsque la plante a commencé à sortir de terre, mais le bulbe ou la racine, ce sera déjà en fait moins riche que si on le prend en automne. Les écorces externes des arbres, c'est en période hivernale, sur des branches où le diamètre est inférieur à 2 cm. Donc il faut pas que ce soit, vous prenez pas ça sur un tronc, quoi. Il faut que ce soit des petites branches assez, assez fines, sinon ça va être trop ligneux. Donc on va pas pouvoir l'utiliser. Ligneux, ça veut dire en fait que ça va être dur. Voilà, je le précise. Mais voilà, la lignine à l'intérieur des plantes, c'est ce qui sert à faire le bois. Donc c'est assez dur. Si on veut quelque chose d'assez tendre pour pouvoir l'utiliser, il faut des branches en fait qui soient pas trop grosses. Pour ce qui est des parties internes, on prélève ça par contre sur des branches de gros diamètre ou sur les troncs en début de saison de végétation. Donc au moment où la plante elle a les bourgeons, les premières feuilles, voilà. Les feuilles, on les prend à la fin du printemps. Donc là, ça va être le moment. Donc quand elles sont bien développées et qu'elles ont la taille adulte, mais qu'elles sont pas encore devenues trop coriaces, il faut qu'elles soient assez tendres encore pour pouvoir les utiliser. Les fleurs, les sommités fleuries, tout ce qui est inflorescence, il faut que ce soit cueilli en bouton ou au début de l'épanouissement. Il faut pas de fleurs qui soient déjà fanées ou qui aient des ébauches de fruits, ça c'est pas compatible pour les utiliser. Et les graines, elles, en fait, elles se cueillent lorsqu'elles sont arrivées à pleine maturité, donc quand elles se détachent facilement et qu'elles ont plus de consistance molle quand on les touche. Voilà, donc ça c'est pour la récolte.
Pour tous ces détails, est-ce qu'on a des petits guides pratiques assez faciles qu'on peut trouver, l'arboristerie pour les nuls?
Alors celui-là, je suis pas sûre qu'il existe, mais il y a pas mal de bouquins sur les plantes médicinales, j'en ai d'ailleurs.
Il y en a beaucoup.
Un avec moi, juste là, plantes médicinales, mode d'emploi, les reconnaître dans la nature, les utiliser et les cultiver. Donc ça, c'est aux éditions Ulmer et c'est Olivier Escuder qui fait ça. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un guide de chez Delachaux et Niesley sur les plantes médicinales, savoir les reconnaître, qui est très bien fait, où elles sont classées et où il y a les utilisations dessus.
Sachant que Delachaux est un naturaliste, l'édition Delachaux, c'est les gros guides naturalistes de référence utilisés par les pros, donc avec ça vous êtes peinard.
C'est ça, il n'y a pas normalement de raison qu'il y ait d'erreur à l'intérieur. Ensuite, les utilisations, comme on le disait souvent, c'est consommé sous forme de tisane. Les feuilles et les fleurs et certains fruits sont concassés, on en fait des infusions. Et voilà, donc après c'est une question de posologie, donc ça quand vous l'utilisez ou quand vous achetez la plante en herboristerie, bien pensez à demander les posologies, combien de quantité je mets, qu'est-ce que j'utilise. Normalement l'herboriste il vous renseigne sur tout ça, il n'y a pas de soucis. Ensuite on a aussi donc tout ce qui est huile végétale ou herbe ou huile essentielle. Donc ça c'est mieux quand c'est inspiré en fait par le nez. Souvent on utilise ça pour faire
des inhalations,
voilà, merci, je cherchais le mot. C'était ça, bon, souvent l'hiver, voilà, quelques gouttes d'huile essentielle. Ce qui marche bien l'hiver, c'est l'épicéa. Souvent on met l'eucalyptus, mais l'épicéa c'est assez fort et ça marche bien. Donc pareil, si une bassine, de l'eau chaude ou un bol de l'eau chaude, quelques gouttes d'huile essentielle, vous mettez une serviette sur la tête et on respire toute cette vapeur jusqu'à ce que l'eau refroidisse, c'est que du coup vous ayez plus ces effets. Donc ça c'est assez radical aussi. On a aussi par exemple, si on veut faire des bains, prendre un bain par exemple, bon, c'est pas très écolo de prendre un bain, mais vous avez le droit d'en prendre 2-3 dans l'hiver, il n'y a pas de souci. Et donc ça par exemple avec de la lavande...
Je vous autorise.
Voilà, moi je vous autorise. Non, avec de la lavande ou de la valériane, ça c'est bon pour détendre les muscles. La lavande c'est assez courant dans les huiles de massage pour les muscles. Donc ça par exemple, vous avez fait un gros footing... Et vous en avez besoin, on peut faire ça aussi.
Vous avez couru 10 km dans la neige, pour venez, vous n'en pouvez plus.
La lavande aussi. La lavande aussi apaise beaucoup les piqûres de moustiques.
D'accord.
Là pour cet été, là, je pense qu'il va y en avoir un bon paquet. Donc un petit peu de lavande, ça apaise un bon savon.
Il suffit de frotter de en fait avec.
Un savon de Marseille à la lavande et puis vous prenez votre douche et ça apaise. Ça apaise les piqûres.
Ouais, ou huile essentielle de lavande. Oui, vous faites infuser, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez quelques huiles essentielles dessus, vous laissez refroidir, vous mettez dans un flacon, un truc, quelque chose, et un spray, et ça c'est bon sur la peau. C'est aussi très bon contre les puces chez les chats et chez les chiens. Donc ça, vous pouvez mettre partout, ça sur les tissus, vous pouvez même frotter les animaux avec cette huile. Bon, ils aiment pas. Ouais. j'avoue, j'ai fait ça à mon chat, il a pas trop aimé, mais après, ils sentaient bon la lavande. Non, mais c'est assez efficace.
Meilleur que la vinaigre aussi pour les piqûres.
Pour les piqûres.
Efficace, mais bon, c'est un peu meilleur. Ouais.
Exactement.
Contre les poux aussi, la lavande.
Voilà, c'est assez bon, voilà, puce, poux.
D'accord.
Voilà, c'est pas mal.
Tiens, une idée, t'as comme ça, juste pour les mouches, parce qu'il y a des endroits où il y a des mouches partout en été. On m'a conseillé le basilic et sinon des clous de girofle plantés dans du citron. C'est,
ouais.
C'est du flan ou.
Non, c'est pas du flan. Ouais, dans le citron, une petite coupelle citron piquée de clous de girofle, on peut faire ça avec de l'oignon aussi. Alors dans une coupelle, on met une tranche d'oignon, un truc assez épais, vous plantez du clou de girofle à l'intérieur et vous mettez du vinaigre blanc dans la coupelle. Ça c'est radical pour les mouches. Alors c'est pas hyper... Bon, le clou de girofle normalement ça atténue un peu l'odeur du vinaigre, mais ça marche bien. Et le basilic au bord de la fenêtre là, pour pas qu'elle rentre trop, comme ça il a un peu de lumière, il est content, et ça évite aussi de faire rentrer les mouches. On a aussi... tout ce qui est géranium pour les moustiques, ça on le sait. En plus, on a des super géraniums odorants, donc à la rose, au citron. Donc, ça c'est pas mal à mettre aux fenêtres. En plus, ça sent bon, donc faut pas se priver. On va peut-être juste finir, il nous reste quelques minutes sur.
Encore 10 bonnes minutes.
Voilà, 10 bonnes minutes, bah parfait. On peut aussi, du coup, pour finir sur les plantes médicinales, utiliser certaines qu'on peut pas prendre en infusion pour faire en fait des cataplasmes ou des choses comme ça. Par exemple, la consoude est utilisée, elle, pour tout ce qui est plaies, pour faire des bandages, parce que comme son nom l'indique, la consoude en fait, elle soude en fait tout ce qui est partie différentes parties de la peau. Si vous avez une petite plaie, pour refermer, donc ça c'est assez utilisé pour faire différents cataplasmes. Donc là, on a fini avec tout ce qui est la partie des plantes médicinales. On va faire un petit point puisque c'est le printemps et que on va tous aller au jardin sur la culture, voilà, tout ce qui est potager, comment bien l'entretenir, bien le faire, et quelques petites méthodes.
Et on passe la parole à...
Et on va tous...
Tous ?
Voilà, tous.
Allez,
faire un petit point ensemble. Donc du coup, il y a pas des nouvelles lois, mais quelques nouvelles règles qui vont d'ici à l'horizon 2022 interdire aux particuliers d'utiliser des pesticides dans leur jardin. Donc plus d'antilimaces, plus de choses comme ça. Donc autant prendre l'habitude dès maintenant de se passer de ces pesticides et de favoriser la biodiversité et de permettre d'avoir un écosystème qui soit riche et apte à se défendre en fait tout seul contre tout ce qui est maladie et ravageur, puisqu'il peut très bien s'en sortir tout seul. Donc pour avoir un jardin qui soit riche en biodiversité, il faut déjà chercher à multiplier les milieux qui soient différents. Donc avoir des espaces un peu secs, d'autres plus humides, par exemple une petite lisière entre la pelouse et les arbustes, si vous avez un jardin assez grand bien sûr, hein. Là on parle de quelqu'un qui a un jardin assez imposant. Il y a certaines règles, donc la première c'est apprendre à organiser son jardin en fonction du milieu où on vit. Donc si on a un milieu sec ou un milieu méditerranéen, un milieu tempéré, choisir en fait les plantes qui sont adaptées à leur environnement et pas chercher à cultiver quelque chose qui va du coup pas être adapté du tout à là où on le plante et qui va avoir vraiment besoin d'aide pour pouvoir pousser et se développer et se défendre. Puisqu'il ne peut pas tout faire en même temps. Bah, s'il a besoin vraiment de mettre toutes ses ressources pour pouvoir pousser, bah, il peut plus se défendre. Fatalement, c'est... c'est assez logique comme raisonnement, mais c'est vrai que voilà, si on a une plante adaptée en fait à l'environnement, au sol et à la météo qu'on a alentour, elle va être voilà, plus belle, en meilleure santé, et elle va pouvoir se défendre mieux contre tout ce qui est maladies et insectes. La deuxième règle qu'on a, c'est d'alterner en fait les plantations. Donc on parle souvent de rotation des cultures. Donc la même chose en fait si vous avez un potager, hein, rotation des sols, c'est fondamental pour limiter la dissémination des maladies, qu'ils soient virales ou bactériennes en fait. Et si on a en plus chaque année des plantes différentes au même endroit, on va pouvoir faire travailler le sol à des niveaux différents. Puisque les racines, bah, par exemple, d'une certaine plante vont peut-être plus en surface, alors que bah, si vous mettez des pommes de terre, des carottes, ça va aller chercher plus loin. Donc du coup, ça aussi, c'est assez bien pour faire travailler le sol à différents niveaux. On peut aussi, du coup, favoriser l'accueil des animaux qui sont utiles dans notre jardin en créant, en leur créant des espaces de vie, donc ce qu'on appelle les nichoirs, les abris à insectes, avec bien sûr la possibilité de pouvoir les construire soi-même. Donc un nichoir à oiseaux, hein, c'est rien que quelques planches et un petit rondin de bois pour le faire tenir, ou si on l'accroche à un arbre, voilà, c'est vraiment pas grand-chose à faire. Normalement, on en a tous fait quand on était au primaire.
En même temps que les herbiers.
Tout à fait, en même temps que les herbiers, on a dû faire les nichoirs à oiseaux. Hein. Ça, c'est normalement, on y passe tous. Et les abris à insectes, c'est pareil, hein, même si on peut en trouver dans le commerce, déjà tout fait. Là aussi, il suffit pas grand-chose. Hein. Vous faites une petite structure en bois avec quatre planches, hein, et à l'intérieur, il suffit de mettre comme si vous faisiez des étagères. Et on peut mettre, par exemple, des cannes de Provence, faire des petits fagots de cannes de Provence ou de bambou qui vont être coupés. Donc ça, c'est bien pour les abeilles et les guêpes solitaires qui aiment bien se mettre là-dedans, puisque ça fait des petits nichoirs. Elles peuvent mettre leurs petits œufs, voilà, c'est assez bien pour elles, ce type de matériel. On a aussi tout ce qui va être tuiles cassées, ardoises cassées, ça c'est super pour les araignées, elles, parce que c'est chaud à la dessous avec le soleil qui va taper dessus, donc elles aiment bien ces milieux assez chauds. Si vous mettez tout ce qui est écorce de bois ou fragments de feuilles, des choses comme ça, ça c'est bon pour tout ce qui est coléoptère, donc les coccinelles, les scarabées, tout ce qui va être assez utile après au jardin. Donc c'est pas mal pour eux, puis ça leur fait un petit abri. On peut
Il y a des exemples de ces constructions au Jardin Royal, au Jardin des Plantes aussi sur Toulouse.
Donc, voilà, c'est vrai.
Si vous voulez voir comment c'est fait, vous pouvez aller regarder, il y a un petit écriteau aussi qui explique tout.
On le voit bien, c'est surtout celui au Jardin Royal, ouais, on le voit assez bien, il est côté gauche du
côté
jardin.
Côté habitation.
Côté habitation, ouais, du jardin.
Le Jardin Royal, c'est lequel c'est...
Alors c'est le jardin qui est en fait comme si vous remontiez vers les Carmes, par exemple quand on est rue aux Aisnes, voilà, c'est ouais. la grande rue qui remonte vers les Carmes. Il y a un jardin voilà, sur la droite qui n'est pas très grand.
D'accord.
Et c'est le
ah oui, ce petit jardin, oui, d'accord.
Okay. Voilà, donc c'est le Jardin Royal.
Maracana.
Avec un petit pont et une maracana, exactement. Et donc voilà, donc eux, ils ont mis des abris à insectes et aussi des composteurs pour les habitants qui habitent le quartier. Il y en a pareil au Jardin des Plantes et au Grand Rond. Donc des coins pour le compost. Donc là, pareil, vous pouvez demander une petite poubelle à compost pour chez vous. Et hop, en même temps que vous allez vider votre verre ou votre carton, vous jetez votre compost assez facilement. Et ça peut vous être reversé ensuite si vous avez des plantations, si vous les avez un petit potager. Et que...
En terreau.
Voilà, en terreau, exactement. Du coup, on a aussi... En parlant de compost, du coup, belle transition, qui elle favorise du coup une autre branche en fait d'animaux, c'est tout ce qui est décomposeur, donc vers de terre, perce-oreille, cloporte, ça c'est vraiment toute une partie des décomposeurs qui vont vraiment servir à aérer le sol et du coup pouvoir permettre aux racines de s'enfoncer plus facilement sur vos plantes, voilà, c'est assez aussi utile, même si des fois on trouve ça un peu dégoûtant, mais non, eux aussi ils ont une utilité. On a quelque chose aussi d'assez important, c'est qu'il faut arroser au bon moment et dans la bonne quantité, ce qui est tout un art, parce que au printemps, il vaut mieux le faire quand les nuits sont encore un peu fraîches. Il vaut mieux le faire le matin, et au fin du printemps et début de l'été, il vaut mieux en fait le faire le soir, puisque les plantes elles vont profiter de l'humidité toute la nuit pour se réhydrater et boire l'eau. Jamais arroser l'après-midi, parce que l'eau elle va s'évaporer très très rapidement, et du coup la plante elle a pas le temps d'en profiter, puisque ça va se gaspiller, et du coup elle va pas pouvoir l'utiliser vraiment. Donc plusieurs systèmes toujours d'arrosage, tout ce qui est goutte à goutte avec un programmateur. Si vous n'avez pas assez de place pour mettre un goutte à goutte, parce qu'il faut vraiment un potager assez grand pour installer un goutte à goutte et que ce soit rentable en fait, vous avez aussi le paillage qui va éviter l'évaporation de l'eau. Donc par exemple, tonte de pelouse, copeaux de bois, paille, vous mettez ça au pied des différents plants, et ça va éviter en fait que la terre sèche trop et forme une croûte, et que du coup à l'arrosage l'eau pénètre moins facilement à l'intérieur. Et ça aide aussi le jardinier à limiter les efforts pour désherber, puisque du coup ça va former comme une petite couche protectrice pour pas que les mauvaises herbes puissent pousser. Si c'est assez épais bien sûr, hein, ça va voilà, du coup empêcher cette germination. Et pour finir, puisqu'il nous reste 2 minutes, on va parler vite fait des associations utiles plantes-légumes quand on jardine. Par exemple, si vous plantez des tomates, vous pouvez mettre à côté des œillets d'Inde, en fait, puisque eux, ils stimulent la production des fruits, et ça repousse les nématodes des racines. Les nématodes, c'est des tout petits vers, en fait, qui vont grignoter les racines sous terre. On a aussi le tabac d'ornement, qui, lui, va piéger les aleurodes. Les aleurodes, c'est la mouche blanche, voilà, qui est sur les plantes. Ensuite on a aussi les capucines pour limiter le mildiou. Le mildiou, ça on en parle souvent sur la vigne, mais ça arrive aussi sur voilà, tout ce qui est tomates par exemple. Et on peut aussi utiliser le persil et le basilic à côté pour stimuler la croissance des pieds de tomates. Pour ce qui est par exemple des salades, on peut mettre des soucis au pied des salades, ou des aromatiques type romarin, sarriette, sauge, thym, qui eux vont avoir une action contre les pucerons. Et pour finir, on peut par exemple parler des poivrons. Si vous mettez des radis avec, ça va arrêter, éloigner en fait les araignées rouges. Pareil, si vous, on peut mettre aussi des soucis ou des œillets d'Inde pour repousser les mouches blanches. Et par exemple aussi la bourrache, on en parlait tout à l'heure, avec sa jolie fleur bleue, en plus d'être jolie, voilà, elle du coup elle va attirer les pollinisateurs et donc favoriser la fructification des plants qui vont être à côté, puisque en attirant les pollinisateurs, elle permet qu'ils aillent aussi sur les fleurs des poivrons, et donc favoriser cette fructification.
Très bien. C'est déjà la fin. Merci Vera Cruz, merci à tous les trois, même si vous restez un peu silencieux aujourd'hui, mais la prochaine fois je suis sûr vous prendrez plus la parole. Merci Alix, Quentin et Anaïs. Donc c'était la chronique Vera Cruz sur Canal Sud.
Merci.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages au printemps et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc au printemps les amants vont prier Notre-Dame du bon temps au printemps pour une fleur un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard en riant. Toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps.